Culture, la nuit, un patrimoine radiophonique. La vie entre les lignes, une série d'émissions de Patrice Galbeau qui alternait, classiquement, entretien avec un écrivain et choix d'épisodes marquants de son dernier roman, mais des propos qui n'illustraient pas nécessairement l'œuvre, qui l'éclairait plutôt. Romain Gary, Benoît de Groult, Jules Roy, Zoé Oldenburg, Louise Weiss, Lucien Bodard, entre autres, furent les invités de Patrice Galbeau, ainsi que Paul Guimard, rencontré en 1974 à l'occasion de la parution de La Constance. Voici cette nuit les trois premiers épisodes d'une série de cinq.
Avant tout, je voudrais vous poser une question. C'est presque une devinette, c'en est une pour moi en tout cas. Comment peut-on à la fois écrire des romans, écrire des dialogues de films, être responsable d'une chose très importante dans une maison d'édition, écrire des articles de journaux, écrire beaucoup d'autres choses? Comment peut-on faire tout ça et passer presque la moitié de son temps en voyage?
Effectivement, ça semblerait prouver que je suis un bourreau de travail, ce qui est très loin d'être le cas. En réalité, c'est certain que je fais tout ça, mais de tout ça un peu. C'est-à-dire, je m'occupe un peu d'édition, mais je ne suis pas un éditeur. J'écris des romans, mais je ne publie pas un roman par an, il s'en faut de beaucoup. J'écris quelques dialogues de films, mais je ne fais pas de films par an non plus. Si vous voulez, j'ai des activités diversifiées, comme on dit volontiers maintenant. Et je crois que c'est un peu un tic d'époque. Je crois que la plupart des écrivains ont envie de ne pas s'enfermer dans le travail du roman et s'exprime de façon un peu diverse. Vous savez, ça n'est ni contradictoire ni très éloigné l'un de l'autre.
C'est complémentaire.
C'est complémentaire, oui. Je veux dire, même écrire une chanson, bon, si on a envie d'écrire une chanson, c'est un peu comme écrire une nouvelle. Par conséquent, à condition de ne rien faire au rythme intensif qui était celui des écrivains du 19e siècle surtout, mais enfin, rythme que certains ont conservé. Enfin, je pense à Simenon, par exemple. Bon, il est évident que Simenon ne peut rien faire d'autre que d'écrire des romans, parce qu'il en écrit à la cadence d'une mitrailleuse légère. Comme ça n'est pas mon cas, comme j'écris des romans qui sont d'abord de petits romans, hélas, à chaque fois que je commence, je suis persuadé que ce sera un énorme volume, et puis quand il est terminé, c'est plus une nouvelle qu'un roman, enfin, c'est une chose très courte. Et comme il s'écoule quelquefois 4 ans, 5 ans, 6 ans ou même 7 ans entre chacun, ça me laisse quand même le temps d'aller m'ébattre dans l'herbe.
Mais ce qui me frappe chez vous, c'est que dans cette époque où beaucoup de gens sont extrêmement agités, nerveux, vous donnez une grande impression de calme, ou une impression de grand calme.
Mais vous savez, d'abord, je suis d'origine bretonne. Les Bretons ne sont pas des excités, ne sont pas des nerveux. Ce sont plutôt des gens qui prennent leur temps. Je ne veux pas dire placides, ce serait le contraire du caractère breton, mais enfin, ce sont des gens qui ont de l'eau sous leur vent, comme on dit. Et puis, c'est en plus dans ma nature. Bon, je trouve que la vie est courte et qu'elle est belle. et que se hâter de la dévorer, c'est de la boulimie. Donc je préfère grignoter, pas dire à tous les râteliers, ça serait péjoratif, mais dans plusieurs assiettes, c'est vrai.
Et puis il faut dire aussi, je crois que une de vos grandes passions, c'est tout de même la mer.
Une de mes grandes passions, et peut-être ma seule passion, c'est la mer. Oui. Et encore, quand je dis la mer, je crois que ce n'est pas tout à fait exact.
C'est moi qui l'ai dit.
Oui. Ma grande passion, c'est le bateau. Pour des raisons dans lesquelles les psychanalystes verraient probablement beaucoup de complexes latents. Enfin, un bateau, c'est un peu le sein maternel, c'est un peu l'œuf. On est bien enfermé, on est préservé des agressions du monde, si vous voulez. Alors, bon, c'est ça que j'aime, moi, ce sont les bateaux. C'est vraiment pas tellement la mer. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire, et c'est vraiment très sincère, si je pouvais faire du bateau en dehors de la mer, je préférerais plutôt, parce que la mer est quelque chose de très hostile, de très dur. C'est une onde mauvaise à boire, comme a dit Apollinaire, ce qui est un grave défaut. Mais j'aime tellement le bateau que je passe par-dessus la mer, si vous voulez.
Vous êtes breton, vous m'avez dit tout à l'heure.
Je suis breton, oui.
Cet amour du bateau vient peut-être davantage de ses origines bretonnes que de la psychanalyse, vous ne croyez pas ?
Ça, j'en sais rien, parce qu'après tout, tous les Bretons ne sont pas marins, ils s'en foutent beaucoup même. Mais enfin, il est certain qu'il y a... En fait, si vous voulez, je suis plus précisément de Nantes. Or, Nantes, on s'en aperçoit quand on étudie un peu son histoire, c'est une ville très curieuse, parce que c'est une ville aventurier, c'est sûr, mais l'aventurier de deux sortes. C'est-à-dire, c'est une ville d'aventuriers, ce qu'Albert Vidali appelait les aventuriers de grand vent. Bon, il y a tous les marins bretons, il y a tous les négriers bretons, les corsaires bretons. Et c'est une ville aussi des aventuriers de l'esprit. C'est très étonnant que vous ayez à la fois très grands marins à Nantes, mais aussi Jules Verne, c'est-à-dire l'aventurier en chambre, mais aussi Aristide Briand, mais aussi André Breton, qui a inventé le surréalisme à Nantes, parce que c'est un pays qui est fait pour ça. Alors, je crois qu'il n'est pas du tout impossible, effectivement, que le fait d'avoir passé absolument toute ma jeunesse dans cet endroit m'ait donné un peu le goût de l'aventure en chambre, que je ne déteste pas du tout, et de l'aventure de grand vent, que j'aime plutôt encore davantage.
Un long courrier s'est immobilisé sur l'aérodrome de Lorient-Lanbiwe. Les passagers descendent. Il s'agit d'un avion spécial dont tous les occupants sont des marins-pêcheurs. Ils sont en civil, mais cependant bien reconnaissables. Dans les bâtiments de l'aérodrome, ils prennent possession de leurs bagages qui dégagent un fort parfum d'exotisme. Statues africaines en bois, cornes d'animaux, etc. Certains de ces voyageurs sont attendus par les femmes ou les parents. D'autres se groupent à trois ou quatre pour prendre un taxi. C'est le cas de l'un d'eux, 25 ans, solide, souriant, un beau visage ouvert. C'est Jean. Le taxi démarre. Une heure plus tard, Jean dit au revoir à ses copains, descend du taxi et s'engage dans un petit chemin. Avec un bonheur visible, il reprend possession de son paysage familier. La mer n'est pas loin, on l'aperçoit. On la devine à quelques centaines de mètres du hameau à l'extrémité duquel se détache la maison vers laquelle Jean marche. Pourtant, c'est déjà la campagne. Une campagne très bretonne avec des pommiers, des champs exigus, des touffus, des bouts de landes, des ajoncs en fleurs. Jean marche vers sa maison, mur de granit, toit d'ardoise cimentée pour résister au vent, précédé de l'habituel jardin de fleurs et de légumes. Sur son chemin, il passe près d'un paysan qui bine un sillon de pommes de terre.
Bonjour, Youn.
Ah, bonjour, Jean. Alors, sac à terre ?
Eh oui, tu vois, ça commence à être long.
Un beau temps pour revenir au pays.
Beau temps, oui, ça fait plaisir.
Pourtant, toi, à Dakar, le soleil, t'as dû en avoir assez.
Bah, c'est pas le même, tu sais.
Nous aussi, on en a assez. Un bon coup de pluie qu'il faudrait. Ton père doit être encore après ses casiers. Mais ta mère est à la maison. Vas-y. Elle a eu son content de t'attendre.
Poursuivant son chemin, Jean arrive à la maison de ses parents. Elle est située dans une anse de l'une de ces rivières qui sont autant de voies de pénétration de la mer à l'intérieur des terres et qui permettent aux bateaux, retour de pêche, de s'enfoncer profondément dans la campagne au point de s'amarrer à un pommier à deux pas d'un troupeau de vaches. De telle sorte que les paysans ne peuvent échapper totalement à l'attraction de la mer qui vient battre au pied de leur ferme et que les marins ressentent évidemment la tentation de la sécurité terrienne. La mère de Jean travaille dans sa cuisine. Elle n'est plus jeune, elle n'est pas encore vieille. En fait, elle n'a pas d'âge. Sans doute a-t-on dit d'elle jadis qu'elle était jolie.
Madouée !
Bonjour, maman.
Bonjour. Et moi qui ne t'espérais pas avant tantôt.
Bah, tu sais, nos avions à nous, quand ils sont pleins, ils partent.
Assieds-toi, après un voyage pareil.
On n'était pas debout.
Madouée, mais tu n'as pas mauvaise mine.
Mais toi non plus, maman.
Oh, moi, ça va toujours. Tu vas manger quelque chose?
Non, non, merci.
Un verre de cidre, alors?
Ah, ça, oui. Puis moi, je sais plus ce que c'est, moi.
Tu sais, il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas celui de l'année dernière.
Hein?
Non. Plus dur qu'il est. J'avais pourtant dit à Guyader, c'est toujours le vieux Guyader qui nous fait notre cidre. Je l'avais pourtant bien répété de ne pas soutirer un jour de vent d'ouest. Ça fait du cidre trop dur. Mais tu le connais. Enfin, il est bon quand même.
Hein? Je te crois qu'il est bon.
Oh, c'est pourtant vrai que tu as bonne mine. Tu as même forci.
Hey, tu sais ce que dit papa? La pêche au thon, c'est le métier de touriste. Tiens, je te parie que c'est la première chose qu'il va me dire. Comment il va?
Oh, toujours pareil.
La pêche?
Toujours pareil.
Ah, bonjour papa.
Oh, mais tu es revenu en arrière pour arriver si vite. On ne t'espérait pas avant tantôt.
C'est ce que je lui ai dit.
Alors toi, ton fils revient d'une campagne de bientôt un an. Et tout ce que tu trouves à lui donner, c'est du cidre. Ah, si encore il était comme l'année dernière, mais figure-toi que Guyader s'est entêté à soutirer un jour devant l'ouest. Alors, naturellement...
Je lui ai dit aussi.
Ah bon, si vous avez tout dit, vous auriez pu m'attendre.
Dis, tu ne penses pas qu'il a bonne mine?
Ah, pas étonnant. Le thon est un métier de touriste.
Ça aussi, on l'a déjà dit.
Donne-nous l'apéritif. Pour ton retour, on a invité du monde ce soir. François, Yves, Marie-Josée, sa sœur...
Ah, Anne, elle vient aussi?
Oui, elle vient aussi.
Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant?
Eh ben, elle donne la main à sa mère pour la maison, puisqu'elle vient de finir ses examens.
Ah.
Fin septembre, elle prendra un poste d'institutrice.
Tout de même, la petite Anne institutrice, ça fait un drôle d'effet. Hein.
Oh, c'est plus la petite Anne.
Le soir, en effet, ils sont tous là autour de la grande table, au centre de laquelle trône un énorme plat de langoustine. Jean et Anne sont côte à côte. Avant de venir, Anne a pris le temps de se faire élégante.
Mais depuis quand on s'est pas vus tous les deux?
C'est facile à calculer. On s'est pas revus depuis que tu étais allé à Brest passer ton examen de patron. Quand tu es revenu, j'étais déjà à Rennes et tu es embarqué pour Dakar avant mon tour. Ça fait plus d'un an et demi.
T'as pas perdu ton temps, hein?
C'est la mode que tout le monde passe des examens maintenant. Toi encore, je comprends. Les moteurs, l'électricité. Il faut connaître. Mais pour mener un bateau de pêche, c'est en mer qu'on peut apprendre. Pour aller à l'école.
Tu vas encore nous dire que de ton temps...
Ouais, de mon temps. De mon temps, c'est sur le pont que c'était l'école. Et les leçons, elles coûtent sa boule dans le cul. Mais au bout de 20 ans, quand tu passais patron, tu avais pour besoin du téléphone pour amener ton bateau à la maison. Rien qu'à la couleur de l'eau, tu savais où tu allais. Les étoiles... Un coup de sonde de temps en temps pour être plus sûr. Même sans compas, tu arrivais toujours à accrocher le feu de Penmark. Et laisse porter dessus, t'étais rendu.
Je dis pas non, mais une bonne gogneau, c'est pas mal non plus.
C'est ce que je disais, le téléphone.
Anne, reprends des langoustines puisque t'aimes tellement. Dernier coup de salut avant de rentrer, elles ont à peine 3 jours.
Mais te voilà avec au moins un mois et demi avant de repartir.
Ah, si je repars. Bah oui, on n'a pas eu le temps de discuter avec les parents, mais je crois que je ne retournerai pas autant. Ouais. Malgré que ce soit un métier de rentier. Ah, oui.
Tu reviendras au chalut?
Peut-être, j'ai des idées, on en parlera.
Alors, en attendant, il faudrait peut-être bien que tu me donnes un coup de main à Omar. Mmh. Oui, j'ai mon matelot qui part pour son service. Alors, le temps que j'en retrouve un autre...
Oh, laisse-le se reposer tout de même.
Ah, on verra ce que donne un patron pour boiter 60 casiers.
C'est d'accord.
Allez, servez-vous largement, il n'y a plus rien après.
Allez, non, c'est déjà pas mal.
Tu devrais raconter un jour l'histoire de cet hiver. Tu sais, sur le drainage.
Ah, celle-là, c'est la meilleure.
Oui, ça, allez, raconte.
Tu vas pas la croire. Et pourtant, c'est comme ça. Ouais. Hein? T'as été au courant de la tempête du 10 janvier?
Ah, bah oui.
Oui, oui, c'est là que c'est perdu, le soyons amis.
Ouais, ouais.
Bon, Drainec était en pêche dans le sud de la Grande Sole, pas loin de nous autres, une vingtaine de milles, pas plus. Mmh. Le coup de vent est venu sur nous cette soirée, avec la nuit, quoi. Oh, malheur. Oh, j'avais jamais eu une mer pareille, ça déferlait de tous les bords. Il y avait des crues, t'aurais mis la maison du docteur.
Ah, un coup de vent de nord et en hiver, c'est mauvais.
Ah, pas loin de 80 nœuds, une sacrée pioule. Le Drainec avait à la cape, naturellement, comme nous autres. Vers les 11 heures, il nous avait dit, à la radio, qu'il est allé à peu près, que tout le monde allait se coucher en attendant que ça passe. Et v'là vers les minuit, une heure, tu connais le grand Hubert de Moilan. Mm-hmm. Bon, bon, ah, et ben mon Hubert met dans son idée d'aller sur le pont.
Ça, c'est bien des coups à lui.
Oh, vous êtes tous les mêmes, va.
Alors, le v'là donc sur le pont, à l'arrière, un peu abrité par la passerelle, peut-être qu'il voulait pisser au grand air, hein, ou qu'il était malade, ou je sais pas quoi. À ce moment-là, le Drainec se fait capler par une déferlante, et hop, mon Hubert à la baille. Aïe, aïe, aïe. Nuit noire, la mer comme elle était, le bateau qui dérivait à 3-4 nœuds, personne pour l'entendre gueuler. Alors il se dit, à ce coup-là, c'est mon tour de faire mon trou dans l'eau. Oui, il m'a raconté qu'il était résigné. Alors c'est là où c'est incroyable, au bout d'un petit moment qui pataugeait, il y a une autre lame qu'il prend, qu'il tortille, et il se retrouve à moitié assommé sur le pont.
Oh, oh là là, ça s'appelle revenir de loin.
Ah oui, mais attends, tu sais pas le plus beau.
Ah bon?
Il se relève comme il peut, complètement aveuglé. Il se traîne à tâtons jusqu'au poste. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Un Hollandais. un Hollandais qu'il connaissait pas. Et qui lui baragouine une engueulade. Il avait changé de bateau sans s'en apercevoir. Ben oui. L'autre devait être bord à bord dans la nuit.
Ah, ça c'est la meilleure.
Alors, les Hollandais l'ont gardé avec eux. Ils l'ont débarqué à Ouessant en retour. Sur le moment, il était tellement assommé qu'il a dormi 24 heures. Après, il a quand même pensé à prévenir le conquis radio. Mais le Drainec avait déjà averti qu'il était perdu. Il y a sa femme qui avait déjà sorti son voile.
Anne, prends-en encore.
Oh non, la moitié. Non, j'ai déjà trop mangé.
Mais ça peut pas te faire de mal. C'est pas du chimique.
On dit ça, mais
c'est du naturel.
Allez, Yves, j'irai peut-être à la vente avec toi demain matin.
Ah bah, et après, comme je suis pas de corvée à bord, on pourrait descendre à la grève. Ah bah c'est une marée de 90.
Mais non, tout de même, t'as 2 jours à passer à la maison. Faut que tu trouves le moyen.
Oh, une marée de 90, faut en profiter. Hein, on peut avoir du congre et puis des ormeaux.
Oh là là, ma pauvre Anne. Épouse qui tu veux, mais pas un marin.
Oh, mais pas de danger.
Hé, dis donc. Le jour de ta première communion, tu m'as dit, quand je serai grande, je te marierai.
Oh, bah parlons-en, toi, tu m'avais dit, je serai aviateur.
Bon, allez, on va rentrer, parce que je voudrais pas laisser les enfants tout seuls trop longtemps.
Oh, bah.
Ah, je sais pas comment on s'arrange, mais presque toujours, on pêche bien et on vend mal. 40 000, la part, pour 15 jours de mer, c'est pas lourd. 40 000. Et puis en plus, on a eu de la misère avec nos chaluts, des avaries tous les jours.
En fait, c'est ça, maintenant, pour pêcher du poisson, il faut aller dans la caillasse. Hein. Les herbiers ont été trop dragués.
Oui, mais quand tu restes sur le pont à ramander tes filets jusqu'à 2 heures du matin, ça n'empêche pas qu'il faut envoyer le chalut à l'eau à 6 heures.
Tu penses.
Alors, calcule ce que ça te laisse pour dormir. Tu comprends, les frais de l'armement n'arrêtent pas d'augmenter. Dans un sens, c'est normal. Un grand chalutier, maintenant, ça va chercher dans les 200 millions. Alors, comment tu veux calculer honnêtement la part de l'équipage? Oh, tout est en train de changer.
Ah bah, obligé. Tiens, à Lorient, il y a des armateurs qui paient les équipages au moins. Tu serais d'accord?
Oh, sûrement pas. Bah, autant travailler à terre, alors.
Non, écoute, Yves. Je veux te parler d'une idée que j'ai, moi. Dakar, c'est fini, j'ai envie de rester dans mon pays. D'un autre côté, même avec mon brevet de patron, c'est pas forcé que je trouve tout de suite un commandement ici.
Ah, ça non.
Bon, alors j'ai pensé une chose. Si on avait un bateau à nous... Non, mais t'emballe pas, j'ai bien réfléchi. On peut trouver une bonne occasion dans les 20-25 millions. Pas un gros chalutier, naturellement, non. Une barque et une soixantaine de tonneaux, c'est assez pour ce que je veux faire. On est déjà un patron, un chef mécanicien, les bons matelots, il y en a.
Oh, ça, le bateau, on peut le trouver, l'équipage aussi. Mais les millions où tu les trouves?
Ah, ben, pour ça aussi, j'ai réfléchi.
Ouais. Toi, quand tu réfléchis, ça fait du dégât.
Non, mais écoute, je vais t'expliquer. Hein.
Le lendemain, Yves est revenu chez les Guillou. Jean et son père l'attendaient. Tous trois se sont attablés devant une bouteille de cidre. La mère va et vient dans la cuisine. Elle écoute.
Moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais tout de même...
Alors, naturellement, tu embarquerais avec nous.
Qu'est-ce que tu veux faire d'un vieux qui n'a même pas un seul diplôme?
Bah, tu sais bien qu'il n'y a pas un meilleur pêcheur que toi sur la côte.
Ouais, ce que je ne vois pas, c'est comment tu t'arrangeras pour payer. Ça en fait des sous.
Ça, pour ça, il a des idées.
Bon, écoutez, il nous faut 10 millions. Le reste, ça peut s'arranger avec le crédit maritime. Ah. Bon, moi, avec mes campagnes de thon, j'ai pas loin de 3 millions de côté.
Oui.
Yves se débrouillerait pour 1 million, 3 et 1, 4.
Ben oui, j'ai des parts sur un sardinier, je peux les revendre.
Tiens, toi, papa,
oui.
Je me disais que le terrain sur la rivière, on n'en fait pas grand-chose. Il y a souvent des touristes qui l'ont demandé.
Oui, alors, on en tirerait bien 2 millions.
Ce terrain-là, il est à moi. C'est mon père qui me l'a donné à mon mariage. Et vous n'y toucherez pas. Si c'est pour emmener ton père que tu es revenu, tu aurais autant fait de rester à Dakar. Tous ensemble sur le même bateau. Ah, c'est une fière idée, tu peux le dire. Comme ça, si le bateau est perdu, toute la famille va au fond, d'un seul coup.
Mais pourquoi veux-tu qu'on aille au fond?
Et pourquoi les autres y vont? À mon âge, j'ai plus de goût à avoir peur. Chaque fois qu'on annonce, on pose du mauvais temps sur l'Irlande. Mon terrain, vous ne l'aurez pas!
J'arrangerai ça. Elle crie, c'est normal. Mais j'arrangerai ça.
Je la comprends bien. Mais je suis sûr que j'ai raison. À nous trois, avec un bon équipage, on est imbattable. On fera des marées courtes, on cherchera pas le gros tonnage, mais rien que des poissons de première qualité. On vendra une partie directement au restaurant.
Seulement, voilà, on sera tous endettés jusqu'au cou. Le crédit maritime, c'est très joli, mais il faut rembourser un jour ou l'autre.
Avec un peu de chance, on y arrivera.
Dans le petit lavoir qui se trouve à l'extérieur de la maison, la mère Guillou fait la lessive. Elle va pendre le linge sur les fils de fer prévus à cet effet dans le fond du jardin. Son mari, assis sur un tabouret, répare des casiers.
Allons, allons. 5 kilos de homard dans 60 casiers. Alors, si tu comptes le bateau, l'essence, le rôle d'équipage, les horaires à changer, la boîte, sans parler des casiers perdus. Dans le temps, avant que la côte soit dévastée, avec 60 casiers, tu faisais pas loin de 50 livres. Mais 5 kilos, oh.
C'est assez pour deux vieux.
Oui, si on veut, mais c'est pas un métier pour un jeune. Hein? Tu peux pas dire que c'est un métier pour un jeune.
Je ne dis rien.
Un jeune, il veut gagner sa vie, c'est normal. Quand on est jeune, il faut avoir de l'ambition. Ne dis pas que tu serais contente si ton garçon était manœuvre à l'usine.
Avec le bagage qu'il a, il ne serait pas manœuvre.
Enfin, je dis manœuvre ou autre chose.
C'est ça, autre chose, oui.
Et le devoir des parents, c'est quand même d'aider les enfants, hein?
Quoi?
Le devoir des parents, c'est quand même d'aider les enfants.
On l'a aidé.
Et c'est son idée. Je ne dis pas qu'il a raison, mais puisque c'est son idée. Finalement, ce terrain sur la rivière, c'est vrai qu'il ne nous sert à rien.
Il ne nous gêne pas non plus.
Ah, t'es bien une drouglazette, tiens. Tu es têtu comme tous les drouglazettes.
En mer, c'est toi qui commandes. À la maison, c'est moi. Le terrain restera où il est.
Pendant ce temps-là, dans un bistrot du port, Jean est en grande conversation avec un armateur de Rennes.
Alors, Dakar, ça a marché ?
Ouais, pas à se plaindre. Oui, c'est ma dernière campagne, je retourne pas là-bas.
Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. 8 mois, c'est long. Tu veux embarquer au chalut?
Oui et non.
T'as ton brevet de patron?
Puis l'année dernière.
Un commandement, je crois pas que tu trouveras ça tout de suite. Mais comme second, je pourrais peut-être te prendre.
Je vous remercie. C'est pas pour ça que je voulais vous voir. Non, j'ai entendu parler que vous vendiez un de vos bateaux.
Ah oui, je vends la Constance. Ça t'intéresse?
Faut voir.
C'est une bonne barque. C'est Pigeavant qui me l'avait faite. Mais comme je construis un congélateur, la Constance n'a plus sa place dans mon armement. Alors, tu veux te mettre à ton compte?
Bah, je voudrais essayer, en tout cas.
Ce sera pas facile. Le bon temps de la pêche, c'est fini. Mais je te comprends, j'ai commencé comme toi. J'ai acheté un tonnier à voile, puis 2, puis 3, puis un chalutier, et maintenant...
Et naturellement, il y a la question du prix.
Oh bah, va toujours voir le bateau, il est au Guilvinec. Puis après, on discutera.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Jean bondit en voiture, passe chercher Anne, et les voilà partis. Ils roulent dans l'admirable campagne bretonne.
À la rentrée, tu peux choisir ton poste?
En principe, non. Mais j'ai un inspecteur qui m'a promis de m'appuyer.
Et tu veux rester par ici ou tu veux rester en ville?
L'année dernière, je t'aurais répondu en ville. Et puis j'ai passé un an à Rennes. Pourtant, Rennes, c'est pas le bout du monde, hein, mais... Je crois que j'aimerais mieux rester par ici.
Ouais, c'est comme moi. Au début, l'Afrique, ça me plaisait beaucoup. Je dirais pas le contraire. Mais après, il y a trop de choses qui ont commencé à me manquer.
Quelles choses?
À savoir.
Le mal du pays?
Des gens aussi qui me manquaient. Non, tu m'as pas écrit souvent.
Il y avait pas grand-chose à dire.
Paul Guimard, vous êtes un très grand voyageur, tout le monde le sait. Mais je trouve qu'il est bon de le rappeler, puisque ça fait partie de votre vie même. C'est l'amour de la mer en particulier. Il y a une extraordinaire course en bateau que vous aviez entreprise il y a quelques années, qui a été interrompue par un accident. Cette course, je ne vais pas vous demander de la raconter en détail, ce serait peut-être beaucoup, mais est-ce que vous pouvez me dire déjà en quelle année elle a débuté?
Je ne sais plus trop en quelle année c'était. Ça devait être en... Je ne sais pas, il y a 6 ou 7 ans par là, disons quoi. 7 ou 8 ans, peut-être. C'était une idée à laquelle je tenais beaucoup. J'avais fait un premier tour du monde en bateau 3 ans avant. J'avais emporté avec moi presque la totalité, si vous voulez, des livres de bord des gens qui sont mes héros favoris, des gens qui ont inventé le monde, c'est-à-dire les navigateurs des 16, 17e, 18e siècle. Vous savez, c'était des gens à qui un roi venait dire Alors, vous voyez cette carte, là, il y a une grande tache blanche, ici. Alors, allez-y, allez voir ce qu'il y a, quoi. Bon, bah, c'était Cook, c'était Bougainville, c'était Lapierreau, c'était Dumont-d'Urville, c'était Nantes-Castaux, c'était Tassement, enfin, tous ces gens-là. Bon. Alors, ces gens partaient, non pas du tout comme nous partons maintenant. Maintenant, on fout le camp beaucoup plus qu'on ne part. Enfin, on ne va pas quelque part, on s'en va de quelque part, et c'est une différence énorme. Ces gens-là partaient animés d'une curiosité absolument encyclopédique. Et à cause de cela, ils embarquaient à leur bord des médecins, des chercheurs et des dessinateurs. Et ils notaient tout. Vous m'entendez bien ? Tout. Le moindre caillou, la plus petite feuille, toutes les races d'hommes qu'ils rencontraient, tout était décrit. Et en faisant ce tour du monde, je m'étais dit, au fond, ce serait fascinant de refaire le même avec ces livres-là et d'essayer de mesurer, puisqu'on a tout sous les yeux, d'essayer de mesurer à quel point et dans quelle direction le monde a changé en 3 siècles. Qu'est-ce qui a bougé ? Pourquoi et dans quel sens ? Si vous voulez, un petit exemple de rien du tout, mais qui m'est beaucoup frappé. Je suis arrivé en bateau devant une baie des Marquises, qui est une baie superbe, qui s'appelle la baie de Taiohae. Et par hasard, j'avais sous les yeux un grand dessin double page fait par le dessinateur, je crois bien, de Dumont-d'Urville, représentant la physionomie de cette île des Marquises, vue de mer d'où j'étais. Bon, alors, on reconnaissait tout, bien entendu, les rochers n'avaient pas changé, il y a un rocher de chaque côté, qui sont comme 2 sentinelles à l'entrée de cette baie, tout était là, mais c'était un univers nu, un univers purement minéral. Or, ce bateau-là, en débarquant dans cette baie-là, 3 siècles avant, avait eu l'idée comme ça, mais une idée entre pas mal d'autres, quoi, de planter 5 ou 6 acacias, en se disant, ben, on va voir si ça pousse, quoi. Or, l'acacia, c'est très prolifique. Et actuellement, les Marquises sont totalement recouvertes, mais vraiment comme d'un manteau de fourrure, par des forêts d'acacias absolument impénétrables, d'ailleurs, ce qui complique bien la vie de ceux qui y habitent. Alors, vous voyez, c'était donc fascinant de se dire, eh ben voilà, je vais voir comme ça dans chacun des points d'escale de ces navigateurs-là. Ce qui a été changé et pourquoi. J'ai débarqué aussi dans un atoll des Tuamotu, et les Pomotu qui étaient là, qui sont les gens les plus hospitaliers et les plus exquis du monde, m'ont fait un grand festin le soir, et il y avait notamment un cochon de l'air rôti, un petit cochon noir comme il y en a là-bas. Et ils m'ont dit, tu vois, ça c'est les cochons de Cook. Cook avait débarqué un couple de cochons là, ben ils ont continué, quoi. Et c'était des petits enfants de Cook qui étaient là, qu'on mangeait tous les jours. Donc j'étais parti dans ce but précis. Et puis cet accident imbécile a stoppé l'aventure.
Vous disiez que vous aviez emporté sur ce bateau vos auteurs favoris qui étaient... ces gens qui avaient parcouru le monde à la recherche d'îles nouvelles. Mais, on se met, on va un petit peu dans tous les sens en ce moment, puisque...
Comme en mer.
Comme en mer. À part eux, quels sont tout de même vos grands auteurs ?
Bon,
c'est vaste.
On dirait le questionnaire de Marcel Proust.
Oui, presque.
Mes grands auteurs, je veux dire, des origines à nos jours ou...
Non, peut-être pas, mais vous savez que... Je ne vais pas vous demander s'il y avait le feu, quel livre vous emporteriez. Parce que
le plus près de la porte.
Près de la comme porte, vous emporteriez le feu, comme disait Cocteau, je crois. Ouais. Mais parallèlement à votre voyage en mer, je crois qu'il y avait une opération qui était avec Georges de Cône, non ?
C'était une coïncidence, en fait, non. Georges de Cône, lui, avait entrepris une expérience de vie solitaire sur une île.
Et c'est en pensant à lui que je vous posais cette question, parce que lui est parti en disant qu'il allait rester tout seul sur cette île, et je sais que finalement il n'a pas pu y rester aussi longtemps qu'il le pensait. Il avait emporté des livres.
Oui, ben, vous savez, Dans ces cas-là, il faut voir les choses sans trop de romantisme.
Vaut mieux un livre de cuisine.
Je crois qu'un bon livre sur le jardinage, sur la pêche ou sur l'élevage des moutons, à certains moments, ça peut être plus utile que les pensées de Pascal. Je ne dis pas que les pensées de Pascal soient inutiles, mais à la rigueur, vous pouvez, avec un très grand effort d'intelligence et de recherche, retrouver quelques pensées de Pascal, mais vous n'inventerez pas si un poisson polynésien est comestible ou mortel. Alors, si c'était le cas d'une île déserte, j'ai l'impression que très prosaïquement, j'emporterais le plus possible, j'emporterais peut-être tout simplement une encyclopédie, en me disant que ça me sera utile pour survivre. Moi, c'est pas mon problème, mais ça ne le sera jamais. J'aime bien la compagnie de mes semblables. Ce que je préfère dans une navigation, et ça fera bondir beaucoup de marins, c'est le moment où j'arrive. Parce que découvrir un pays par la mer est une chose magique et merveilleuse. Je trouve qu'on aborde un pays dans ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire dans ce qu'il a de plus ouvert, avec les gens les plus intéressants, les moins conventionnels. Donc, comme j'aime la société, j'aime aussi la société des livres.
Tout à l'heure, vous venez de me dire que je vous posais un peu le questionnaire de Proust, et ça me rappelle... Romain Gary me disait qu'il avait répondu à la question « Quel est le fait militaire que vous appréciez le plus ?» Il avait répondu « La fuite ». Et que ça avait été très mal pris la plupart du temps, hein, si je vous demandais ça, puisque je l'ai commencé le questionnaire de Proust.
Le fait militaire, c'est-à-dire la grande bataille.
Oui.
Moi, je crois que je vous répondrai très banalement. De façon un peu rudimentaire peut-être et sans imagination, que je crois que le fait militaire le plus important est celui qui a mis à bas Hitler, le nazisme et le fascisme, parce que je crois qu'autant quantité de guerres ont été des guerres stupides, enfin des guerres fratricides comme on dit, autant là, le monde a failli basculer dans un ordre qui était assez monstrueux. Et je crois que ce jour-là a été un des rares faits militaires à propos desquels je pourrais me réjouir sans arrière-pensée, si vous voulez.
Dans le petit port, c'est la marée basse. Plusieurs bateaux sont échoués sur leurs béquilles. Derrière un chalutier flambant neuf, une coque de modeste apparence, la Constance. Le voici dans ce bateau. Les deux jeunes gens montent à bord. Jean inspecte le pont.
À première vue, c'est ce qu'il me faut.
Tu n'es pas difficile.
Si, si, justement.
Oh, t'aurais dû me dire qu'il fallait se mettre en salopette. Il est pourri.
Comment pourri?
Mais enfin, regarde. Toute la peinture s'en va. Oh, il y a de la rouille partout.
Mais c'est rien, ça. Un coup de minium et c'est comme neuf. Non, écoute, l'essentiel, c'est que la coque soit saine. La peinture, tu peux toujours la refaire, tandis que les bordées fatiguées. Tiens, je suis sûr que ce bateau-là ne fait pas une goutte d'eau, moi. Et voilà, la cabine du patron.
C'est ici que tu vivrais?
Ouais, l'équipage est en bas dans le carré. Non, non, il vaut mieux que tu viennes pas ici. Avec ta robe, c'est sûrement plus sale qu'ici. Hein.
Ben alors, ça doit être quelque chose.
Le soir même, Jean, son père et Yves sont venus tous trois inspecter la Constance. En prenant appui sur l'ouverture d'un dallo, Jean se hisse sans difficulté sur le pont. Yves en fait autant avec la même aisance. Puis, à son tour, le père entreprend de passer à bord. Il peine durement pour se hisser le long de la coque. Il doit s'y reprendre à deux fois, mais on devine que ce n'est pas un homme à renoncer. Jean et Yves, tout à leur excitation, ne remarquent rien. En soufflant un peu, le père Guillou les rejoint.
Les travées bien? C'est du costaud?
J'aurais mieux aimé un peu plus tulipé, moi.
Oh, elle soulagera bien assez comme ça.
creux, peut-être un peu bas du cul.
Ah, mais c'est plus commode pour travailler.
Oh, naturellement, c'est pas les coques de dans le temps qui étaient fines comme des yaks. Bon, enfin, c'est une belle barque. C'est du pain du Nord.
Oui, oui, Norvège. Ah. Les membrures enchaînent.
Oui.
Non, tu sais, je l'ai vu à sec, c'est à peine si tu distingues les coutures.
Oh, ça, dame, piche avant, c'est un charpentier.
Oh, naturellement, on voit qu'il a déjà pas mal travaillé. Mais je pense pas qu'il y aura des frais à faire dessus tout de suite.
Ça me fait drôle, moi, de penser que je vais recommencer avec ces outils-là.
Qu'est-ce qui était mécanicien à bord?
Un de l'Esquil, je crois.
Ça a l'air bien entretenu. Enfin, je peux rien dire avant de l'avoir fait tourner. Hein. En tout cas, c'est une bonne installation, hein, plus pratique que sur l'étoile des flots. Pour le circuit électrique, ils n'ont pas cherché à l'économie. À vue de nez, je pense pas qu'on devrait avoir de mauvaises surprises. Ce qu'il faudra, quand il sera à sec, ce sera de bien regarder l'axe d'hélice. Et le presser tout.
Ouais, ouais. Bah, pour tout ça, je te fais confiance, hein, tu es plus qu'avec moi. Non, c'est pas l'hôtel des Sables d'Or, mais il y a moyen d'être confortable.
Ouais, moi, je change pas d'idée. C'est la question argent qui me tracasse.
C'est sûr que maintenant qu'on a un bateau qui a l'air de convenir, il va falloir faire des comptes. Qu'est-ce qu'il t'a dit au juste, l'armateur?
Oui, il a été plutôt arrangeant. Il en veut 40 millions. Non, mais on peut avoir la moitié au crédit maritime.
Hein. Oui, mais le reste, hein? Le reste. On peut réunir 10 ou 12 millions, mais pas plus.
Non, c'est ce que je lui ai dit. Comme il n'a pas besoin d'être payé comptant, il propose un arrangement.
Un arrangement. Ça me soucie, moi, l'idée que tu ferais des dettes.
Bah, écoute, le crédit, c'est fait pour ça. Toutes les entreprises marchent avec du crédit, la pêche comme les autres.
Probable, mais moi, j'ai toujours payé recta.
Oui. Moi, ce qui me tracasse, c'est que, question crédit, j'ai déjà la maison, hein, la voiture et puis quelques bricoles. Toi, t'es célibataire, c'est plus facile.
Bah, écoute, chacun fera comme il pourra, moi, je fonce. Dis donc, à propos, je voulais te dire. Ouais. Moi, coucher en haut, hein, ça m'est égal, si tu veux.
Ah non, le patron n'a pas à coucher avec l'équipage. Ton poste, c'est en haut.
Mais tu m'as dit toi-même que c'est pas un diplôme qui fait un marin. T'as déjà commandé des bateaux, tu peux mener celui-ci aussi bien que moi.
Il n'y a pas la place pour deux patrons à bord. Je serai matelot et je coucherai avec les matelots. Allez, viens nous montrer la passerelle.
Ouais.
Moi, c'est réglé, j'embarque. Et le terrain sur la rivière, ta mère le vendra, c'est moi qui te le dis.
Quelques instants plus tard, le père Guillou a l'occasion de constater que son optimisme était un peu excessif.
Alors?
Non.
Tu pourrais quand même réfléchir.
Justement, j'ai réfléchi. Pendant 30 ans, j'ai réfléchi. Et maintenant, je te répondrai non pendant encore 30 ans.
Oh, tu seras morte avant.
Pas sûr. Chez les Drouglazettes, on ne meurt pas comme ça.
Oh, toi, les Drouglazettes.
Mon père et ma mère vont sur leurs 80. Tu n'as pas besoin de compter que je m'en irai avant toi. Et le terrain non plus. Reprendre la grande pêche à ton âge.
Marie-Josée et Anne ont un frère, François. Jean et François sont amis d'enfance comme tous les jeunes du village. Mais contrairement à Yves et à Jean, François, lui, n'est pas marin. Il a choisi de rester à la ferme familiale.
Je suis content pour toi et Anne. Les parents aussi sont contents. Ils t'estiment bien.
Si, j'ai pensé qu'on pourrait profiter de ton mariage pour annoncer nos fiançailles.
Ça fait que mes deux sœurs seront mariées à des marins. Toutes les filles sont pour vous, quoi. J'ai de la chance de m'en trouver une.
Disons, il me semblait bien qu'il y en avait plus d'une à te courir après. Hein.
Oh. Pour courir, je ne dis pas, mais pour se marier, c'est une autre paire de manches. Tu sais, Jean. Pour une fille, la ferme par ici, c'est pas tellement une belle vie. Entre la maison, les bêtes et donner la main au champ quand il faut, elles n'ont pas souvent le temps de souffler. Alors en plus, quand les enfants arrivent...
Non, bah, tu pourrais peut-être la faire aider, non?
Comment veux-tu? J'ai 10 hectares et encore, pas 3 champs d'un seul tenant, des parcelles dans tous les coins. Le remembrement, par chez nous, personne n'a réussi à s'entendre. J'arrive juste à joindre les deux bouts. Il faudrait que je change mon tracteur qui commence à être foutu et je suis déjà engagé jusqu'au cou dans le crédit agricole. Avec 10 hectares, tu ne fais pas fortune. Et puis, obligé d'habiter avec les parents. J'ai quand même décidé mon père à équiper la pantie avec une douche et un but à gaz. Mais bon, ce sera manger ensemble, faire le ménage ensemble, travailler ensemble, et ainsi de suite. Remarque, maman n'est pas à chercher des histoires, et puis Geneviève est bien courageuse, mais... Ça ne m'étonne pas que les filles aiment mieux épouser vous autres.
Oh bah, nous autres, c'est pas l'idéal non plus. Hein.
D'abord, quand ça marche, vous gagnez bien, vous avez des maisons neuves, pas de gros travaux pour la femme. Dans un sens, c'est moins monotone.
Mais Geneviève, elle t'aura tous les jours.
Justement, tous les jours. Enfin bon, on ne doit pas se mettre à pleurnicher. Après tout... Il faut bien qu'il y ait des paysans pour mettre du beurre dans la poêle de tous vos poissons.
Sur la Constance, le travail marche dur. Jean, son père et Yves passent toute leur journée à tout remettre en état. Et le soir de la grève où Jean et Anne se promènent, ils peuvent voir le grand bateau se balancer dans la crique.
En travaillant dur, dans 15 jours, tout pourrait être pareil.
Oui, ce serait formidable.
Ça, oui.
Et tu pourrais partir tout de suite.
Aussitôt le bateau en étant, on embarque.
Tu seras heureux, hein, ce jour-là.
Tu penses?
On fera la fête.
Un peu, oui. Ce bateau-ci, il sera arrosé comme il faut.
Et puis j'irai te regarder partir au bout de l'acheter.
Eh oui.
J'aurai 15 jours devant moi, toute seule, bien tranquille. Oh.
Remarque, avec tes élèves, les journées passeront plus vite.
C'est ça, je les verrai à peine passer. Et la nuit, je m'endormirai avec un ours en peluche pour me tenir compagnie.
Je serai quand même là de temps en temps.
De temps en temps.
Qu'est-ce que tu veux sur la côte? C'est pour tout le monde pareil.
Faut croire que les filles sont folles.
Toi aussi?
Ben oui, moi aussi.
Parce que tu m'aimes?
Plus je t'aimerais, moins je serais heureuse. Mais ça se commande pas. Qu'est-ce que je peux faire? Si je crève la coque de ton bateau, tu iras sur un autre.
La malchance avec ce pays, c'est que pour gagner sa vie, il faut s'en aller à terre ou en mer. C'est pareil.
Les garçons s'embarquent, les filles vont se placer en ville.
Non, mais les paysans, c'est pas facile non plus. Bah, regarde ton frère.
Oui, oui.
Si vous aviez été plusieurs garçons dans la famille, la ferme était trop petite pour partager. Déjà comme ça, ce sera juste. Tu aurais mieux aimé épouser un paysan?
C'est un marin que j'aime.
On peut quand même être heureux.
On va essayer.
Et chaque jour, à midi, sur son Solex, Anne timballe un gros panier. Arrivée au bord de la crique, elle appelle. Jean vient la chercher à bord d'une plate, godille jusqu'au bateau. Il l'aide à monter sur le pont.
Je vous apporte de quoi manger, puisqu'on vous voit plus à la maison.
Ah ça, on en met un coup, hein.
Alors, tout marche comme tu veux?
Ouais, je crois qu'avec ce bateau-ci, on est bien tombé.
Tant mieux.
Écoute, Yves dit qu'il tourne comme une horloge.
Au premier coup d'œil, il y a encore du travail à faire pour qu'il ait l'air neuf.
Ah, oh, ben c'est pas un yak, hein. Et puis la peinture et la propreté, on fera ça en dernier.
Bonjour, Anne. Je t'embrasse pas, mais le curieux.
Bonjour, Yves. Bonjour, monsieur Guillou.
Oh, elle nous apporte du ravitaillement.
Ah, faut dire que sur ce faillit bateau, l'équipage est mal nourri.
Yves, des locataires sont arrivés.
Ils sont comment?
Quoi?
Ils sont comment, mes touristes?
J'ai vu que leur voiture, c'est une 504.
Ah, dis donc, écoute-moi ça. Ça s'appelle ton héron, hein.
Oh, il brûle tout mon mazout rien que pour le plaisir d'écouter sa mécanique. Allez, arrête un peu ta musique.
Eh ben, moi, je dirais que la pompe de refroidissement ne débite pas assez.
Je regarderai ça.
Ça sent mauvais ici.
Ça sent pas mauvais, ça sent le mazout. C'est drôle de trouver que le mazout sent mauvais.
Ah oui, alors?
Et de mon temps, la porte de la machine, on la laissait toujours ouverte. D'abord à cause de la chaleur.
Sans compter qu'un bon bruit bien régulier, ça aide à dormir. T'entends pas les autres.
C'est vrai.
Tu vois bien que les marins, c'est des sauvages. Oh. Non, mais sois tranquille, au bout de 15 jours de mer, le mazout, tu le sens plus.
Oui, évidemment, on s'habitue à tout.
Non, mais... non, mais c'est pas ça. Il y a les autres odeurs, le poisson, la cuisine et puis les bons hommes. Oh. Oh, si on pêche, on n'a pas beaucoup le temps de se bichonner. Hein. Dans tout ça, ton mazout, il est noyé.
Écoute, arrête, tu me dégoûtes.
Ah, et pour venir avec nous, il faut pas avoir un nez de parfumeur.
Bon, allez, à quelle heure vous rentrez?
Ben, quand on y verra plus clair pour travailler.
Fini la vie de château. Ben, à partir de ce soir, Marie-Josée et moi, on couche dans la buanderie.
Ils prennent toute la maison, tes touristes?
Ben, obligé. Si t'en loues qu'une partie, ça rapporte pas assez.
Ouais.
Marc, avec les enfants à la colonie, on n'a pas besoin de beaucoup de place.
Eh oui, c'est drôle de penser que pendant l'été, la moitié des Bretons dorment dans des cagibis.
Oh, on n'en meurt pas. Et puis, ça te paie les traites de la maison pour l'année.
Oui.
Bon, et quand on aura cassé la croûte, on se mettra à vérifier la timonerie. D'ici à la fin de la semaine, je voudrais emmener le bateau à quai pour finir l'armement.
Dans une dizaine de jours, on devrait être paré.
Bon, eh ben, moi, j'ai plus grand-chose à faire ici.
Et je vais te raccompagner à terre.
D'accord.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Puis Jean regagne la Constance, tandis qu'Anne va dire bonjour à sa sœur.
Yves t'a dit vers quelle heure ils allaient rentrer?
Vers 9h30.
Oh, je m'en doutais qu'ils travailleraient tard. J'ai fait des choses à réchauffer. Non, d'un côté, ça m'arrange. À 9h30, j'aurais fini de faire le dîner pour les locataires.
Comment sont-ils?
Bon, ils ont l'air braves, enfin, surtout les parents. Ils me prennent 5 heures par jour pour le ménage et la cuisine le soir.
Ça te fait pas un drôle d'effet de voir des gens installés chez toi?
Ouf. 2 mois, c'est vite passé.
Oui.
Ah bah tiens, voilà les jeunes, justement, tu vas leur dire bonjour. Je vous présente ma sœur, Anne.
Enchantée. Antoine Rem, ma sœur Arlette.
Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes bien installée? La maison vous plaît?
Tout à fait.
C'est la première fois que vous venez dans la région?
Nous, oui, mais mon père passait ses vacances à l'étudie quand il était plus jeune.
Ah, oh, bah c'est pas loin.
Non. Dites, nous allions à la découverte. À votre avis, quel est l'endroit le plus agréable pour se baigner?
Il y a la grande plage,
hein?
Par là-bas. Mais si vous voulez être plus tranquille, vous trouverez des petites criques sur la côte sauvage. C'est à peine plus loin. Tenez, regardez, vous prenez le chemin à droite du cimetière. Vous ne pouvez pas vous tromper.
c'est ce qu'on nous dit depuis notre arrivée. Oui. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mais nous avons déjà tourné en rond depuis un certain temps. Hein.
Moi, si vous voulez, je vais vous conduire. Ça ne fait pas un grand détour.
Vous êtes gentille. Je crois que ce sera plus sûr.
Allez, à demain, Marie-Josée.
À demain. Bonne promenade.
Vous habitez ici toute l'année?
Non, non, non.
Je viens de finir mes études à Rennes.
Vous venez vous baigner avec nous?
Ah, bah si vous voulez.
Et les jours passent. Sur le bateau, le travail avance. Les 4 hommes graissent, raclent, peignent, colmatent. Peu à peu, la Constance rajeunit. Plus que quelques jours, et ce sera le grand départ.
Oh, c'est pas des journées de fainéant, hein. Je commence à en avoir plein les bras, moi.
Ouais, alors, de toute façon, il fait plus assez clair, hein. On fait plus que des bêtises. Et puis, côté mécanique, bah, y a plus que des bricoles.
En tout cas, à partir de maintenant, il va nous falloir du monde pour carréler tout ça.
Ouais. Bon, le mieux, c'est d'engager l'équipage tout de suite, hein, puisqu'on peut donner une date pour la première marée. Enfin, si vous êtes d'accord, on va s'y mettre demain.
Oui.
Ça nous fera souffler un peu. Et on est d'accord, hein, on ne prend que le dessus du panier.
Si on peut. Les bons matelots ne nous ont pas attendus pour embarquer.
Oui, oui, mais Jean a raison, hein, il vaut mieux perdre du temps et avoir un bon équipage.
C'est juste.
Vous avez des idées déjà?
Oui.
Ah ben, y a Arthur.
Oui.
C'est pas un mauvais cheval, mais il boit. Hein.
Ah, ça. En même temps, il est courageux.
Hein.
Oui, peut-être, mais s'il faut être à regarder s'il a un coup dans le nez avant de prendre un quart de nuit, il vaut mieux le laisser tomber.
Là, il y a René Juric, de Sainte-Marine.
Ah ouais?
Il serait d'accord, je crois. Un bon matelot.
Bon, ben, avec Pote, que j'ai déjà vu, ça ferait 2. Il manque seulement 2 autres et 1 mousse.
Ah ben, pour le mousse, j'ai pensé qu'on pourrait demander le fils Jaouen.
Ah, c'est vrai? Oui, oui. Hein? Il a fini cette année avec son certificat.
Ah non, mais tu crois que ses parents veulent l'embarquer?
Ah ben, il a l'âge. Jaouen, avec sa blessure, il est à terre pour un moment et c'est parce que sa femme gagne à l'usine. Le petit n'est pas trop costaud, mais il mettra de la bonne volonté. J'ai pensé aussi à Xavier Nawar. Il est dégoûté de faire la sardine. Ils ont foutu 800 kilos à la mer la semaine dernière. Avec le prix qu'on leur donnait, ils ne faisaient pas leurs frais. Il veut désarmer sa pinasse.
Et puis il y a Fintin, qui était un bout de temps sur l'Étoile des Neiges.
Il sait faire sa tête de cochon, celui-là, mais c'est un ramadeur de première classe.
Ah, bon, je vais aller les voir les uns après les autres.
Oui.
Et si tout marche bien avec eux, on pourrait commencer à caréner la marée d'après-demain.
Le dimanche qui suit, Anne et Jean vont manger des huîtres dans le petit restaurant du port. Rasé de près, vêtu d'un pantalon léger, d'une chemise ouverte, Jean a beaucoup de charme. Il ne peut s'empêcher de rayonner d'excitation.
Oh, tu vas tout de même pas laisser des belons.
Je veux garder de la place pour la suite.
Mais les huîtres, ça ne cale pas.
Peut-être bien, mais les repas d'adieu, ça n'ouvre pas l'appétit. Tu vois, ce qui me fait peur. Cette semaine, je t'ai aperçu une demi-heure de temps en temps. J'ai pas vu le temps passer. Je me disais, encore 15 jours. Et puis tout de suite, plus que 8 jours. Et maintenant...
On ne partira pas avant jeudi.
Oui, théoriquement, ça fait 4 jours.
Bah justement. 4 jours, c'est long.
Non, mon chéri. Pour toi, pas pour moi.
Tu ne m'appelles pas souvent, mon chéri.
Après le départ, oui, ce sera long. Mais les 4 jours, c'est comme si c'était demain.
Il y a un point que j'aimerais beaucoup éclaircir avec vous, Paul. Vous avez coutume de dire que la vie est courte, ce qui est exact, qu'elle est belle, ce qui est souvent exact, que se hâter de la dévorer, c'est de la boulimie, ce qui est vrai, et que vous, vous préférez la grignoter. Et que, préférant la grignoter, vous ne travaillez pas beaucoup. C'est peut-être une façon comme une autre de dire que vous êtes paresseux, ou en tout cas que vous n'êtes pas un bourreau de travail. Mais alors, si vous travaillez peu, comment faites-vous pour produire beaucoup? Parce que vous produisez beaucoup.
Oui, au fond, oui. Et pourtant, j'ai la conviction formelle d'être paresseux. Non pas par coquetterie, parce que vous savez, tous les gens qui font pas mal de choses disent « Oui, mais au fond, je suis très paresseux. » Mais je crois que c'est vrai. Je produis beaucoup. Vous savez, si on me mettait en compétition, j'entends, pour les rapports de masse, entre quantité de gens, on s'apercevrait que je produis en 10 ans à peu près ce qu'ils mettent un an à écrire. Mais quand on fait des choses diverses, et quand de bons hasards font que ces choses ont un certain succès, pour dire les choses vulgairement, on a l'impression que... Bon, on a l'impression, oh, il travaille beaucoup, il fait beaucoup de choses. En fait, je vous dis, c'est pas vrai. Encore une fois, entre l'un de mes romans qui s'appelle « L'ironie du sort » et « On vient de faire un film » et « Les choses de la vie » qui était le roman d'après, il s'est écoulé 7 années. Vous vous rendez compte ce que des tas d'autres gens arrivent à faire en 7 années? C'est gigantesque. Et ben moi, finalement, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait simplement des choses diverses et ça, j'y tiens.
Vous avez fait des choses de la vie?
J'ai fait des choses de la vie dans des disciplines différentes. Il est vrai que je consacre pas mal de temps à des voyages qui sont en fait des flâneries, car j'ai beaucoup voyagé, je voyage toujours beaucoup, plus que la majorité des gens. Mais je m'avise aussi que je n'ai jamais écrit une seule ligne sur mes voyages. Je me souviens d'avoir fait un tour du monde en bateau, il y a de cela assez longtemps, et j'ai écrit quoi ? La rue du Havre, qui est un roman qui se déroulait sous mes fenêtres. J'habitais 10 ans rue du Havre, et c'est là que j'ai pu mesurer que je n'avais aucune espèce d'imagination, puisque la seule chose que j'étais capable de faire, c'était de décrire ce qui se passait 4 étages plus bas, en dessous de ma terrasse. Alors, vous voyez ?
Romain Gary me disait que quand il est comme vous, il part beaucoup, et quand il revenait en France, il se sentait chez lui parce qu'il était pris de fureur, de rogne, de hargne, en voyant tous les affiches. Il était pris d'un tel sentiment de fureur qu'il se disait « je suis rentré chez moi ».
Oui, moi c'est souvent le sentiment que j'ai quand je pars. Je me dis « chic, je vais échapper un petit peu à cette espèce de hargne qui existe en France, c'est vrai quoi ». Mais jamais quand je reviens. Nous avons fait, ma femme et moi, un tour du monde complet en bateau. C'est-à-dire, bon, on est parti de France, on est revenu en France. Ça fait du chemin quand même, vous savez. Eh bien, puis ça fait du chemin sur la mer. Quand nous sommes revenus, bon, on en avait un peu marre du bateau, on avait un peu marre de la mer. Quand elle est passée un mois en Bretagne, parce qu'aucune des mers qu'on avait vues ne ressemblait à la nôtre, parce que l'odeur n'était pas la même, parce que les couchers de soleil n'étaient pas les mêmes, parce que la lumière, c'était pas la même chose, et qu'on avait envie de retrouver ce qui est notre berceau, notre nature, nos racines, quoi. Alors ça ne s'analyse pas, ça se discute encore beaucoup moins, mais je crois que c'est essentiel, et je crois qu'on n'y échappe pas, et je crois que de vouloir y échapper, c'est une des pires sottises qu'un être humain puisse faire.
Trois jours passent, trop vite au gré d'Anne. La veille du départ, elle va chez Jean. Il n'est pas là. Sa mère achève le classement du linge propre dans 2 paniers d'osier. Elle en referme un qui est complet et sur le dessus duquel elle a placé 2 boîtes de médicaments.
Va savoir si le père pensera à prendre ses gouttes une fois en mer. Ah, je m'étais bien dit que je n'aurais plus jamais eu à lui faire son panier.
La prochaine fois, je viendrai vous aider.
Quand vous serez mariée, tu feras le panier de Jean. Jusque-là, c'est mon travail.
J'ai apporté du chocolat pour lui.
Vous allez vous marier bientôt ?
Jean en a envie, oui.
Et toi ?
D'un côté, j'aurais bien aimé, comment dire...
Oui, je sais. Moi aussi, je m'étais dit que je profiterais bien un peu avant d'avoir tout ça sur le dos. Et puis voilà, il était pressé. Pour eux, c'est pas la même chose.
J'ai envie de vivre avec lui le plus vite possible.
Bien sûr.
Mais c'est tout le reste qui me fait un peu peur.
Chez nous, on enterre vite sa vie de jeune fille. Ouais. Entrez. Ah, bonjour Marie.
Bonjour Alice. Bonjour Anne. Voilà le panier de mon garçon.
Oui.
J'ai dit au revoir ce matin, je ne peux pas aller au port, on a 3 camions de sardines à l'usine. Voilà. La première fois, c'est plus dur. 15 ans, c'est jeune pour aller en mer.
Dans le temps, c'était 12 ans.
Je sais bien. Quand mon père s'est perdu avec son bateau, ils avaient un petit cousin comme Mousse qui avait cet âge-là.
Ton garçon ne sera pas malheureux. C'est un bon équipage.
C'est plutôt qu'il attrape des angines si on ne fait pas attention.
Le père Guillou s'en occupera, va. Ça m'étonnerait que Jean soit un mauvais patron.
Oh, question de ça, je suis tranquille. Bon, il faut que je m'en retourne. Merci pour tout.
Au revoir.
Au revoir.
Sur la Constance. C'est la 2e journée en pleine mer. Hier, on a exploré les fonds à la recherche de l'emplacement idéal pour la pêche. Et maintenant, c'est le grand jour. Pour la première fois, on va jeter les filets à la mer, ou plutôt les chaluts, comme on les appelle, à bord d'un chalutier. Jean a mis en marche le sondeur enregistreur. Il note la profondeur et cherche sur sa carte la zone correspondante. L'équipage est sur le pont. Tout le monde attend.
Je crois qu'on y est.
D'après mes marques de pêche, t'as un herbier qui est bon ici. Lequel chalut tu veux parer ?
Celui de bâbord.
Allez les gars, celui-ci.
Les hommes préparent le chalut bâbord à être mis à l'eau. Sans précipitation, chacun prend son poste, fait son travail. Chaque geste est précis et nécessaire. La poche du chalut est engagée par le subord. Le père Guillou va prendre sa place au treuil.
Paré !
Paré !
Choc !
Le chalut est mis à l'eau. Les panneaux libérés de leur ferme plongent. Au treuil, le père Guillou contrôle le déroulement des filins d'acier qui relient le chalut au bateau. Il annonce à mesure la longueur du filin déroulé. Lorsque la bonne longueur est atteinte, Jean fait signe de stopper. Puis, lentement, le chalutier va traîner son filet pendant des heures. De longues heures où il faut faire attention à tout. Et surtout à ne pas accrocher les fonds qui déchireraient les mailles. Journée monotone, épuisante pour les nerfs. Personne ne parle. Seule la radio vient rompre le silence.
Allô ? Allô la Constance ? Allô la Constance ? Jean Guillou, m'entends-tu ? Allô, m'entends-tu ? J'écoute.
La Constance entend. Ici Jean Guillou. Qu'est-ce qui me cause ? J'écoute.
Allô Jean, c'est Julien. Je savais que t'étais en mer depuis hier. Alors la Constance, ça roule ? J'écoute, à toi.
Salut Julien ! Ouais, ça roule. Beau temps, mer belle. Je t'entends très bien. Dans quel quartier tu es, toi ? J'écoute.
Oh, je suis bien dans l'ouest de toi, sûrement. Alors t'es content de ton bateau ? T'es déjà en pêche ? J'écoute.
Alors on est juste en train avec notre premier coup de chalut. Bah, pour le bateau, je suis content, oui. C'est une bonne barque, rien à dire. Et toi, j'écoute ?
On a eu de la misère hier soir. On a foutu notre chalut dans une épave. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu. On a déchiré toute la poche. Encore heureux qu'on n'ait pas perdu les panneaux. Jusqu'à 3 heures du matin, on a ramandé sur le pont. On n'a pas eu trop de temps pour dormir. Enfin, ce matin, ça a l'air d'aller. J'écoute.
Non, pas la peine que je te demande ta position, hein. Pirate comme tu es, tu ne me donnes pas tes coins de pêche. J'écoute.
Jamais de la vie, pour que tu viennes me dévaster mes bandes langoustines. Allez, on s'appelle ce soir pour se donner des nouvelles.
Salut, Julien.
Le moment est venu de remonter le chalut. À la force des bras, aidé par le treuil, les hommes le tirent sur le bord du bateau. Il est saisi par un palan et hissé sur le pont. Un homme se glisse dessous et d'un coup sec dénoue le nœud qui ferme le cul du chalut. Le poisson se répand en cascade sur le pont.
Là, on va voir si on aura de la chance pour cette mare ici. Ah, c'est vrai, toi, le petit mousse, t'es trop jeune pour connaître. Au premier coup de chalut, s'il y a des raies dedans, tu en regardes leur queue. Ça te dit si tu auras de la chance ou pas. Tu vas voir.
Non, mais c'est pas trop brillant, hein.
C'est pas trop mal non plus.
Oh, hé, en voilà une. En voilà une, ça y est. Queue coupée, pêche gagnée.
Ouais, mais ras du cul, pêche foutue.
Ras du cul, c'est ras du cul. Moi, je te dis que celle-ci n'est pas ras du cul.
Si on reste à jacasser, de toute façon, ce sera pêche foutue. Donc, allez, parez le chalut.
Pendant ce temps, sur une plage déserte, trois jeunes gens sont couchés au soleil. Ils viennent de se baigner. C'est Anne, Antoine et Arlène.
Oh, on,
En somme, si je comprends bien, ils sont en mer de 15 jours à 3 semaines, puis 2 jours et demi à terre. Et ça recommence.
Mm-hmm. Et pendant ces 2 jours, il faut débarquer le poisson. Remettre le bateau en état, faire du mazout, de la glace, des vivres, pour la prochaine marée.
12 mois par an.
Oui.
Ah, évidemment, pour les femmes, c'est plutôt austère.
Plutôt, oui. Pourquoi souriez-vous ?
Je pense aux nôtres. Je veux dire, les femmes de médecins qui soupirent parce que nous sommes parfois appelés la nuit pour des urgences. Dites donc, il faut une sérieuse dose de résignation pour tenir le coup. Hein.
Oui. Il faut être du pays pour supporter.
Enfin, je suppose tout de même qu'il y en a certaines qui se découragent. Je veux dire que dans mon milieu, par exemple, ça ferait une jolie collection de divorces.
Je n'y avais jamais pensé sérieusement avant.
Avant d'être concernée ?
Oui. Sans doute que beaucoup de femmes trouvent leur vie insupportable au bout d'un certain temps. Mais elles gardent ça pour elles. Oh, il y a plus de veuves que de divorcées ici.
Et vous, vous êtes sûre de tenir le coup ?
Non. Mais je l'espère. Oui, je l'espère. Je n'en sais rien. On verra.
Bon, moi je vais faire un tour en bateau avant la nuit. Vous venez toutes les deux ?
Non, je vais rentrer. Merci.
Bah, et toi, Arlette, tu dors ? Secoue-toi un peu.
Oh, laisse-moi tranquille avec ton bateau. Il va faire froid dans 10 minutes. Et puis on est mal assis là-dedans, on se fait mouiller.
Bon, bah, j'y vais tout seul. Ciao !
Au revoir. Vous savez que vous lui plaisez beaucoup ?
À qui ?
À mon petit frère. Il a très bon goût d'habitude. Vous êtes bien faite.
Nous nous entendons bien, c'est tout.
Mais oui. Remarquez que je comprends bien votre pêcheur d'Islande de vouloir vous passer la corde au cou d'urgence. Moi, si j'étais vous, je ne me presserais pas de jouer la papolaise.
De toute façon, si vous étiez moi, vous n'épouseriez pas un pêcheur.
Très juste.
Tandis que la Constance poursuit sa pêche au grand large, à terre, un petit drame éclate. Yvon, le fils de Yves et de Marie-Josée, doit être opéré de l'appendicite. On a peur pour lui. Et la solitude de ces femmes semble plus grande au moment de l'inquiétude, alors que pas un homme n'est là pour les soutenir. Heureusement, l'opération se passe bien, mais évidemment, le jour du retour de la Constance, personne n'attend le bateau à terre. Marie-Josée, Anne, la mère Guillou sont toutes trois au chevet du petit. Et le contraste est grand entre ces trois visages d'hommes tout souriants et heureux de retrouver leurs épouses et ces trois visages de femmes fermés sur une grande inquiétude. Le soir, Jean et Anne se sont retrouvés chez les Guillou.
Pourquoi tu nous as pas prévenus par radio ?
Pourquoi faire ? Si je t'avais envoyé un message radio, tu aurais arrêté la pêche pour rentrer ?
Qu'est-ce que tu veux ? Je parle même pas de nous. Et pourtant, Dieu sait qu'on a besoin de vendre du poisson pour payer le bateau. Et vis-à-vis de l'équipage, s'ils pêchent rien, ils touchent rien, eux non plus. J'ai pas le droit de leur faire perdre une marée, il faut me comprendre.
Mais je comprends. J'ai même compris beaucoup de choses. J'ai vu le visage de Marie-Josée quand il a fallu qu'elle se décide pour l'opération, toute seule. Je l'ai vue pendant une nuit entière regarder le petit qui pleurait. Je me suis souvenue du jour où elle a accouché, toute seule. Depuis 2 mois, j'habite avec elle, je la vois vivre. Pour elle, vivre, ça veut dire attendre.
Je sais bien que c'est dur.
Oui, Jean. Trop dur.
Qu'est-ce qu'on peut y faire ?
C'est une phrase commode.
Non, mais tu as l'air de m'accuser.
Mais non, ce n'est la faute à personne.
Tu restes manger avec nous, Anne ?
Non.
Il faut que je parte.
Anne !
Bon. Bon, ben... Marie ! Ouais. Tu pourrais peut-être quand même nous donner quelque chose à boire.
Oui, c'est tes gouttes que je vais te donner à boire. Oh. Tu n'as pas dû les prendre souvent pendant que tu étais en mer.
Oh, celle-ci, c'est la meilleure de l'année. Pas pris mes gouttes. Plutôt 2 fois qu'une, je les ai prises. Toujours, hein ?
Oui. Toi, quand les menteurs auront une retraite, tu n'auras plus guère besoin de naviguer.
Alors, ce qu'il faut pas entendre. Là, mon garçon. Bon, tu sais, pour Anne, faut pas trop t'en faire. Au début, ta mère aussi avait du mal à s'habituer.
Tandis que maintenant, c'est la belle vie.
Oh, je dis pas ça, mais tu es davantage habituée.
C'est ça, complètement même.
Non, mais je veux dire, à notre âge, forcément...
Madoué, à mon âge, 15 jours toute seule, de plus ou de moins, qu'est-ce que c'est que ça? Au contraire, on a mieux le temps de dormir.
Ben, fallait y penser avant. T'avais qu'à épouser le douanier qui te courait après. Ceux-ci rentrent tous les soirs à la maison.
Bon, à table.
Non, j'ai pas faim, moi.
Tu mangeras quand même.
Oui.
Ici, c'est moi le patron.
Parfaitement.
C'est forcé que les femmes ronchonnent un peu de temps en temps. Mais finalement, c'est pas un douanier qu'on choisit. La preuve.
Dix fois déjà, la Constance a repris la mer. 10 fois, elle est revenue lourde de poissons. Les affaires marchent bien. Les hommes sont heureux. Sous la pluie, sous le vent, sous le soleil, de jour, de nuit, les coups de chalut se succèdent, s'enchaînent, les jours passent. La vie monotone du bord, les cales qui se remplissent. Les hommes ont pris leur vrai visage de mer, la barbe longue, les vêtements sales. Ce jour-là, comme d'habitude, on vient de remonter un chalut. On l'a vidé. Mais il y reste quelque chose qu'on ne distingue pas. Un bout de ferraille, sans doute. Un homme dégage la masse indistincte par le cul du chalut. Il fait signe au père Guillou, qui actionne son treuil. Le chalut remonte, découvrant ce qui se trouve sur le pont.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu un fantôme?
Regarde.
Mais... Ah ben, il manquait plus que ça.
Mais, tu connais ces engins-là, toi?
Quand j'ai fait mon service sur le Vengeur, on avait des exercices de déminage. Mais celle-ci est un vieux modèle.
Et tu crois qu'elle peut encore péter?
Ah, va savoir. 25 ans dans la flotte, c'est long, mais c'est quand même possible. Ah, j'en sais rien. Et comme on peut pas jouer à pile ou face...
Qu'est-ce qu'on va faire?
C'est à toi de commander.
Personne n'est capable de savoir si cette saloperie peut encore exploser ou pas. Il y a deux solutions, mais... Mais je veux qu'on soit tous d'accord. Alors, premièrement, on peut la relancer à l'eau, ni vu ni connu, et on s'en va.
Ouais, mais ça veut dire qu'elle retournera au fond.
Ah oui.
Et que d'autres peuvent la draguer à leur tour.
Bah oui, mais enfin, c'est pas sûr. C'est possible. Alors voilà. Bon, toi, papa, tu es le plus ancien à bord. C'est toi qui couse le premier.
Ah ben, j'ai pas envie de sauter en l'air plus que personne. Mais laisser la corvée à un autre bateau, chez moi, la mode n'est pas encore venue à faire ça.
Chez moi non plus.
Oui, mais enfin, c'est pas le tout qu'on la garde. Faudrait savoir comment on va faire.
Oui. Eh ben, le plus simple, enfin, je veux dire le mieux, quoi, ce serait évidemment de la faire exploser à une certaine distance du bateau. On la mettrait sur un radeau...
Et puis après, qui est-ce qui ira taper dessus?
Eh ben, avec un fusil, on pourrait essayer, mais on n'en a pas. La prendre en remorque, c'est risqué. D'abord, elle peut se décrocher.
Ouais, sans compter que si t'es obligé de manœuvrer, tu envoies ton drain dans l'hélice. Hein? Ou même la mine peut te revenir dans le cul, alors là...
Non, mais... non, c'est à bord qu'il faut la garder.
Ouais. À l'arrière, elle serait abritée.
Ouais, c'est le mieux.
Oh, c'est le mieux si tout se passe bien. Mais suppose que ça tourne autrement. Dessous, c'est le poste. Alors personne n'aura une chance de s'en tirer. Non, ce qu'il faudrait, c'est la mettre le plus loin du carré. Et puis, plus elle sera au-dessus du pont, moins de dégâts elle fera la coque. Tiens, c'est sur le gaillard qu'il faut la mettre.
Ouais, ben mon vieux. Il y aura intérêt à faire doucement. Hein. La vacherie, c'est ça. Les détonateurs. Un choc dessus... Et tu te retrouves dans les étoiles.
Bon, enfin, si elle avait dû exploser, tu crois pas qu'elle l'aurait fait dans le chalut?
Ouais, c'est des trucs capricieux. Hein, peut-être que tout est pourri dedans, peut-être pas. D'une manière comme d'une autre, on va pas prendre le risque d'essayer, hein. Vaut mieux faire comme si elle sortait de l'usine.
Bon. Alors, on va manier un palan ici, dans l'anneau. Tiens, toi, papa.
Oui.
Tu soulageras avec le treuil. Bon. Yves et moi, on tiendra chacun un bout du palan, comme ça elle pourra pas les frapper n'importe où. Bon, si on fait pas de conneries, ça doit marcher.
Bah, de toute façon, si on fait une connerie, on n'en fera pas deux.
Bon, allez, on y va. Le palan, Yves.
Ouais.
Toi, papa, va au treuil. Doucement, hé, doucement. Donne-moi la manie, Yves. Je vais la hisser à l'anneau.
Fais gaffe au détonateur. Ça pète rien qu'en les caressant ces saletés-là.
Parez. C'est le moment d'avoir du doigté.
Je vais faire mon possible. Je sais pas ce qui va se passer, mais... si tu avais refoutu cette mécanique par-dessus bord, n'aurais jamais pu naviguer avec toi.
Allez, à nous de jouer. Tu y es, Yves?
Quand tu veux.
Vire doucement. Allez, monte! Non, tout doux, tout doux! Là, un peu à droite. Là. Ça va, Yves?
Ça va! Ça va!
Hé! Hey, hé, hey, papa!
Hey.
Commence à descendre!
Hey, j'y vais! On est au-dessus du gaillard.
Mais juste au-dessus. Là. Va tout doux, hein.
Ouais.
Bien, bien, ben, un poil à droite. Là, ça y est.
Ça y est.
Tu la tiens, Yves?
Oui.
Là.
Plus dur effet, là.
Ah, ouais. Ah bah des pêches comme ça, il en faudrait pas tous les jours.
Ah tiens, ah bah toi papa, tu peux dire qu'au toit t'es un champion.
En hein. Oh, souplesse.
Ah, comme un cajot d'œuf.
Mais on va la ficeler au bassingage. Un amarrage costaud avec le filon, là.
Gare au détonateur.
Oh, t'en fais pas. Eh bien, avec des nœuds comme ça, elle risquera pas d'aller se promener toute seule. De toute façon, quand c'est pas ton heure, tu risques rien. Et si c'est ton tour de faire ton trou dans l'eau, pas besoin d'une mine pour ça.
Ouais, ben c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mais non, qu'est-ce qu'on va faire?
D'après le règlement, je dois rallier le port le plus proche et signaler par radio que j'ai une mine à bord. Voilà ce que je veux dire.
Et on a combien de paniers?
150 caisses.
Ouais, même en vendant bien, ça fera des parts minables.
Bon, 25, 30 000, pas plus. Hein.
Ouais.
Et justement, on est dans un bon coin.
Ouais. D'autre part, est-ce qu'on peut continuer à pêcher avec ce truc à bord?
D'un côté, saisie comme elle est sur l'avant, ça serait bien drôle qu'il arrive quelque chose.
Oh oui, ce serait bien drôle. Le vent a l'air croché dans le nord-ouest. Le beau temps devrait tenir.
Bah écoutez-moi, de toute façon, pas besoin de se raconter des histoires. Si on rentre maintenant, j'aurai de la misère pour payer les traites du bateau.
Bon, c'est pareil pour nous. On a tous des traites au derrière. Et ce que t'as dit n'est pas faux. Tant qu'il fait beau, on risque pas plus à continuer de pêcher qu'à faire route au tour.
Bah d'abord, moi, je te mine. Moi, je te parie qu'elle est périmée. Foutue complètement.
Oui, mais en continuant, évidemment, on prend des risques.
Oh, des risques.
Maintenant qu'on a envoyé cette cochonnerie à bord, un peu plus, un peu moins longtemps, c'est pareil.
Voilà ce que je propose. On reste en pêche, tant qu'il fait beau. Si ça marche comme jusqu'à maintenant, bah dans 4-5 jours, on a rempli les cales à bloc. Après, on rentre.
Oui, mais et qu'est-ce que je dirais à l'inscription maritime?
Hein? Ouais. Ah ben, tu diras... Alors voilà, monsieur l'administrateur, juste comme on virait notre dernier chalut, l'avant-hier, quoi, qu'est-ce qu'on trouve dedans? La mine. Et dire que j'hésitais à chaluter encore un coup, parce que la pêche était faite, quoi. Alors, naturellement, j'ai envoyé tout de suite un message au Conquet, et on a fait route de retour, puisque c'est le règlement qui veut ça.
Voilà, monsieur l'administrateur, c'est comme je vous le dis. D'abord, vous pouvez demander à l'équipage.
Exactement ça, pas un mois sans
oui, mais s'il me dit, j'imagine bien que vous n'auriez pas été assez imprudent pour poursuivre la pêche avec l'explosif à bord.
Monsieur l'administrateur, des plus prudents que moi, vous n'en trouverez pas aucun d'ici jusqu'à La Rochelle.
T'es le plus fort.
La vie entre les lignes, Patrice Galbeau s'entretenait avec Paul Guimard, auteur de La Constance, avec Gérard Lartigot, Yves Arcanel, Alexandre Rignot, Margot Lyon. Réalisation Evelyne Frémy. Demain, à la même heure, dans les Nuits de France Culture, les deux derniers épisodes de cette série, diffusés pour la première fois sur France Culture en mars 1974.